Bonsoir, comment allez-vous? Notre invité de ce soir est suisse. Connaît-il comme nous par cœur une des plus célèbres chansons de Georges Brassens, « Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux ». A-t-il été menacé par cette curieuse expression « Tu vas voir de quel bois je me chauffe ». Mon professeur de Qigong est chinois, il ne connaît ni les chanteurs, ni les expressions françaises. Quand un élève se plaint d'un quelconque tracas, invariablement il répond « Va aux arbres ». Arbre maître, arbre en fleurs, arbrisseau, nous ne voyons que leur aspect extérieur. Arbre dont on fait les ponts, les maisons, les violons, les appos et même les cogniers pour les abattre. Nous connaissons leur utilité, mais nous ignorons beaucoup de leurs secrets que certains anciens avaient découverts à leur manière et que nous avons un peu oublié, pas mal même, et heureusement à l'heure actuelle, des scientifiques les redécouvrent.
Le sommet d'un arbre, pour l'être humain, ça reste encore maintenant un endroit de sécurité parfaite. Et je crois que ça traduit le fait que nous sommes originaires de ces endroits-là. Alors pourquoi cette proximité de l'homme et de l'arbre? Il se trouve qu'ils sont verticaux, pour la plupart d'entre eux. Et parmi les animaux, l'être humain est le seul, pratiquement, qui soit vertical. Cette verticalité, elle provient justement de notre origine arboricole. Nos ancêtres étaient des primates brachiateurs. Ils ne se déplaçaient pas avec leurs pieds, ils se déplaçaient avec leurs bras. Vous saisissez une branche, vous balancez, vous attrapez une autre branche, vous balancez, etc. C'est la brachiation. Ça mène à la verticalité. Sans les arbres, nous ne serions pas des êtres humains. Nous aurions une toute autre forme. Il est probable que nous marcherions à quatre pattes et que nous aurions un œil de chaque côté. C'est assez étonnant. Il y a une espèce de mépris de l'être humain par rapport aux plantes en général et aux arbres en particulier. Il y a une société protectrice des animaux, très active. Est-ce qu'on n'a jamais vu une société protectrice des plantes? Non. Alors qu'on descend de cet arbre, c'est curieux.
C'était le botaniste Francis Allais dans « Vue du ciel », le documentaire de Yann Arthus Bertrand. Francis Allais, qui a préfacé votre livre, Ernst Zürcher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur dans de prestigieuses écoles en Suisse, chercheur en sciences du bois. Votre spécialité, c'est la chronobiologie, nous y reviendrons. Et vous avez écrit « Les arbres, entre visibles et invisibles », édité chez Actes Sud. Je le disais, Francis Allais a préfacé votre livre. Que vous inspirent ces quelques paroles qu'il vient de nous dire?
Oui, c'est des magnifiques réflexions. Et on peut facilement entrer dans cette démarche. Simplement en se souvenant que comme enfant, lorsque vous êtes en face d'un arbre, vous avez une seule envie, c'est de grimper dans l'arbre, accrocher les branches en espérant qu'il y en ait encore qui reste de ce tronc. Et on a envie de monter dans cet arbre et d'entrer, de s'y cacher. Et pourquoi pas d'y dormir, mais comme enfant, on nous laisse passer cette liberté.
La cabane dans l'arbre, c'est quand même un fantasme.
C'est un fantasme, c'est un archétype peut-être. Peut-être qu'on se souvient ici des plus anciennes époques du développement de l'homme. Et c'est inscrit quelque part dans notre substance.
C'est vrai que dans un arbre, on se sent bien, même au pied d'un arbre. On prend un petit arbre comme un pommier, surtout en ce moment où il est en fleurs, en tout cas en feuilles s'il n'a plus de fleurs. On est quand même dans une espèce de bulle, quoi. On se sent protégé.
Absolument, ouais, on se sent protégé. Et si on fait attention, on sent même les effluves qui descendent de l'arbre. Et ça vous enveloppe, c'est de la poésie à l'état pur.
Ernst Zürcher, vous avez écrit que les arbres sont les êtres vivants les plus vieux, les plus gros, les plus hauts du monde. Alors, c'est vrai, je n'y avais jamais pensé. Alors, les plus vieux, c'est votre spécialité? C'est ça, la chronobiologie?
Chronobiologie, c'est l'étude des rythmes. Donc, ça, c'est pas seulement l'étude de l'âge des choses, de l'âge des êtres, ça fait partie. Mais c'est l'étude de la rythmicité dans la physiologie, dans les structures des végétaux, en particulier des arbres. Et mon cœur de métier, c'est l'anatomie du bois. Donc ici, on a affaire vraiment à des rythmes. Donc ces zones d'accroissement sont clairement structurées d'après les saisons. Même en région tropicale, on a une forme de saisonnalité. Et un aspect particulier de ces rythmes, c'est laisser inspirer par ce que disaient les anciens. C'est clair, on connaît le rythme jour-nuit, c'est l'effet du soleil. Mais il y a des savoirs intéressants qui parlent justement d'autres niveaux de rythmicité. Par exemple, les phases de la Lune, position de la Lune dans l'arrière-fond astronomique. Et c'est là que j'ai vraiment pu entrer de manière très précise scientifiquement et les découvertes ont été particulièrement étonnante.
C'est vrai que vous en parlez de la Lune dans votre livre, nous y reviendrons parce que c'est quelque chose qu'on n'évoque pas beaucoup. Les plus vieux, un arbre peut vivre jusqu'à quel âge, Ernst Zürcher?
Alors, l'arbre le plus ancien, scientifiquement garanti, c'est un Bristol Cone Pine des montagnes rocheuses, basé sur l'analyse des cernes. Et là, c'est des cernes très très fins qui se sont accumulées au courant des millénaires, et c'est un âge de plus de 5000 ans. 5000 ans, c'est-à-dire 2000 ans notre ère et 3000 ans avant. Les pyramides, on estime qu'elles ont été construites 2500 ans avant Jésus-Christ, donc ils étaient antérieurs aux pyramides de Khéops. C'est donc des arbres absolument incroyables. Ils sont pas très spectaculaires du point de vue de leur morphologie, de leur forme, parce qu'ils poussent dans des conditions très difficiles. Et là, il y a un très beau symbole, c'est que des conditions difficiles, une croissance très lente, amène en fait à cette longévité.
Ah, c'est intéressant, parce que d'habitude, on dit le contraire, que quand on a eu du mal quand on était petit, adulte, on était fragile. Alors que là, l'arbre, quand il a eu du mal dans sa jeunesse, adulte, il est fort.
Exactement, c'est une source de force d'avoir de la résistance, d'avoir des obstacles à surmonter, le temps, les tornades, etc. Et là, c'est dans une zone où vous avez aussi des températures très basses éventuellement, donc tous ces facteurs sont des facteurs de ralentissement, mais aussi de renforcement en fait.
Ah oui, donc les arbres qui vivent vieux, ils ont poussé lentement.
Ils ont poussé très lentement. On connaît ça du point de vue des catégories d'arbres qu'on classe en essences pionnières et les essences de la forêt finale après toute une succession forestière. Et les arbres les plus rapides à se mettre en place après un glissement de terrain, qu'on appelle essence de lumière, elles poussent très rapidement, mais n'atteignent pas des âges très élevés et ne sont pas très grands.
Ça aussi, Ernst Zürcher, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. D'habitude, on aime bien que nos enfants aillent vite. D'abord, le monde va vite, et puis quand quelqu'un est rapide, on dit qu'il est brillant. Ben, c'est pas la même chose chez les arbres.
C'est pas la même chose, et on devrait beaucoup plus s'en inspirer. Il y a un magnifique roman de Stan Nadolny qui s'appelle L'éloge de la lenteur, qui inspire quand même beaucoup et qui montre que la vitesse peut aussi avoir affaire avec la précipitation, ce qui n'est pas toujours très positif. Mais pour revenir aux arbres les plus anciens, qu'il s'agit d'un if, mais là, la datation est beaucoup plus difficile.
Nous allons justement parler des ifs. Nous avons vu les plus vieux, mais pas non plus les plus gros ou les plus hauts. Nous allons évoquer les ifs avec vous, Ernst Zürcher, juste après Beth Ditto, et la chanson s'appelle « Fire ».
Feeling in my bones, felt like a fever, came on like a storm. But what I felt that can't be helped no more. Get up, 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 up. If you want my love. Get up, 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 up. If you want my love. Resist.
Le Yves de Fortingall se trouve dans le cimetière du village du même nom, dans le comté de Perthshire en Écosse. Son âge n'est pas connu, mais les botanistes lui donnent entre 2000 et 5000 ans. Depuis toujours, le spécimen était considéré comme mâle puisque tous les printemps, il portait des fleurs produisant du pollen. Mais le naturaliste du Jardin botanique royal d'Édimbourg, Max Coleman, a récemment observé des fruits caractéristiques des fleurs femelles. On a souvent observé que les ifs et de nombreux autres conifères changent de sexe. Le stress environnemental est l'une des choses qui pourrait l'avoir provoqué.
Vous êtes sur France Inter. Dans État d'esprit, nous recevons ce soir Ernst Zürcher, auteur du livre édité chez Actes Sud, Les arbres entre visibles et invisibles. Nous parlions il y a un instant des arbres extraordinaires et vous avez justement évoqué les ifs, Ernst Zürcher. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre? C'est extrait d'un site qui s'appelle maxiscience.com. C'est incroyable ce qu'elle raconte sur les ifs. D'abord, je ne savais même pas qu'il y avait des ifs mâles et femelles. Vous le dites dans votre livre, mais avant, on ne le savait pas.
Oui, en effet, les ifs ont soit l'un des deux sexes, mâle ou femelle. Donc les ifs mâles font justement ce pollen qui est très très prolifique. Et ça brûle très bien quand on secoue du pollen sur une flamme, ça fait étincelles.
Ah, c'est joli.
D'autres ifs à proximité font donc des fleurs et donnent les fruits, ces fruits rouges très collants, très doux. La seule partie qui ne soit pas toxique de l'if, en fait, c'est la chair de ce fruit. Mais on sait de l'if aussi qu'il peut avoir des individus qui ont les deux sexes, les deux genres de fleurs sur le même arbre. C'est beaucoup plus rare. Donc c'est tout à fait plausible qu'un if comme celui de Fortingall ait ces deux possibilités et change. Pour quelles raisons? C'est difficile à dire, mais c'est possible.
Alors, vous parlez beaucoup des ifs dans ce livre, parce que vous dites que ce sont des arbres sacrés, que ce sont des arbres qui, chez les Celtes, par exemple, étaient adorés.
Oui, c'est un arbre tout à fait exceptionnel pour sa position dans la culture européenne. On avait des peuples de l'arbre, et parmi ces peuples de l'arbre, il y avait deux peuples de l'if, les Éburones, le peuple de l'if, dans la région nord, France, Belgique, et les Éburovis, les guerriers de l'if. Et là, c'est intéressant, toute une nomenclature des lieux. Le département de l'Eure, par exemple, porte son nom de l'if. Ébureau, Eure, c'est le même mot. Et Évreux, c'est aussi la capitale de l'Eure, vient de l'if, et Chartres, dans ce département, est directement lié à cette ancienne tradition qui remonte jusqu'à ce culte de cet arbre.
Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, l'if, Ernst Zürcher?
Alors justement, cet if de Fortingall, qui a éventuellement plus de 5000 ans, est un exemple. C'est un arbre qui est potentiellement immortel. C'est peut-être l'arbre de tous les arbres qui démontre le plus clairement qu'un arbre peut effectivement être immortel, à moins qu'il y ait une catastrophe qui vienne le détruire physiquement. Tant qu'il a ses conditions de croissance, l'if est peut-être celui qui vit l'immortalité de manière la plus évidente.
Vous dites dans votre livre que l'if se régénère. Son centre pourri, mais il se refabrique.
Alors c'est intéressant, c'est pour ça que l'if dans les haies refait rapidement des nouvelles branches. Lorsqu'un if fait des grandes branches qui vont retoucher le sol lorsqu'il vieillit, lorsqu'il prend du poids, ces branches au contact du sol vont refaire des racines. Donc vous aurez un cercle qui va s'agrandir et cet arbre va prendre des dimensions étonnantes, même si son centre avec le temps va disparaître. Mais on a même observé que des ifs dont le centre pourri est capable, à partir de son cambium vivant de la périphérie, où il est en contact avec le bois mort pourri de l'intérieur, de refaire une racine aérienne qui va redonner un tronc à l'intérieur de l'ancien tronc. Donc un cycle après l'autre peut se succéder et ça peut aller dans des milliers d'années.
Ah oui. Et alors les ifs étaient dans les temples, où on les trouve à côté des menhirs et des dolmens?
Oui, c'est effectivement associé à ces sites mégalithiques où on avait des menhirs, des dolmens, Stonehenge, Avebury.
En Écosse?
Des endroits comme ça en Irlande, en Écosse, même dans les îles au nord de l'Écosse.
Les îles Lewis?
Exactement. Dans ces cas-là, on a observé que les ifs étaient toujours plantés de manière géométrique, au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Il y avait vraiment des structures très claires. Souvent, un nif d'un genre donné, mâle ou femelle, à l'est ou à l'ouest. Il y avait vraiment une intention très claire.
Vous évoquez également, à propos des ifs, Tristan et Iseult. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec les ifs?
Il y a beaucoup de légendes qui sont liées à ça, à cette essence. La légende de Tristan et Iseult, qui sont donc morts jeunes, amoureux, qui ont été enterrés. On associe cet enterrement, cet endroit où ils reposent avec une graine d'if qui a pu germer. Ces deux ifs ont pu reprendre racine et repousser et se retrouver d'une manière visible, comme symbole d'un
c'est
amour
fort.
Qui ne passe
ouais.
pas.
Oui, et puis un petit peu d'éternité.
Et d'éternité.
Vous écrivez également à Enzercher à propos des ifs que la pâte avec laquelle on dessine le troisième œil est faite avec de l'if.
Donc l'if a des substances absolument étonnantes qui vont jusqu'à la toxicité. Donc le nom latin taxus a une liaison avec toxique. Éventuellement, on imprégnait des flèches, les pointes de flèches. Lorsque le chef guerrier des Eburovis a été vaincu par les Romains, il s'est donné la mort en buvant un extrait de ce poison toxique de l'if. Et dans certaines conditions, on peut probablement l'utiliser pour d'autres aspects, d'autres utilisations, d'autres effets. Et ce troisième œil, ça a donc à voir avec des facultés de perception supérieures, pourrait-on dire, de l'homme, qui étaient développées autrefois de manière systématique. Et certaines substances aident à cela. Il y a des expériences intéressantes faites par un médecin allemand qui s'était endormi sous les ifs et qui a très clairement décrit ce qui se passe lorsque vous respirez ces émanations gazeuses d'un if en été. Ça va extrêmement loin avec des effets psychologiques très violents.
Donc il faut faire attention. Comme disait Paracels, tout est dans la dose.
Tout est dans la dose, exactement. La quantité est décisive. Donc dans ce genre-là, dans cet axe, on a découvert que parmi énormément de substances testées sur des patients, bien sûr des tissus pour trouver des plantes ou des substances capables de combattre le cancer, les extraits d'IF ont été extrêmement intéressants parce qu'ils n'ont pas d'effet secondaire, mais en respectant la dose, naturellement.
Comme quoi, ce qu'avaient découvert les anciens, vous, scientifiques du 21e siècle, Ernst Zürcher, vous le redécouvrez et puis vous le prouvez par la même occasion.
Oui, c'est la démarche scientifique. Et là, je trouve intéressant, c'est de se laisser inspirer, d'arrêter une fois pour toutes de dire ce que disaient les vieux, c'est de la superstition. Et d'avoir l'humilité de se dire que si on a fait certaines pratiques pendant plusieurs milliers d'années, c'est qu'il y avait une raison, c'est qu'il y avait une sagesse derrière, une expérience. Et mon grand-père était un de ces praticiens qui travaillait avec la Lune. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre ces savoirs ancestraux comme hypothèse de travail scientifique. Et ça a été très très riche en surprises.
C'est-à-dire que vous ne les rejetez pas, ni ne les acceptez les yeux fermés, vous les prenez en considération et vous travaillez dessus en tant que scientifique.
Exactement, c'est ce qu'on appelle des hypothèses de travail. On reste ouvert quant aux résultats, mais ça nous permet d'axer la recherche. Et en fait, on est allé au-delà de ce que nous suggéraient ces savoirs traditionnels.
Nous allons justement parler de ces découvertes scientifiques que vous avez faites, vous et d'autres, Ernst Zürcher. Vous en parlez dans ce livre « Les arbres entre visibles et invisibles » qui est édité chez Actes Sud.
Oumaya s'endort sous les monts d'araignées. Oumaya s'endort sous les monts d'araignées. Dans le vent brûlé, là où poussaient les roses, là où poussaient les roses. Oumaya se repose. Oumaya Maya s'endort sous le mont d'araignée. Maya s'endort sous les mandariniers, dans les vents brûlés. Elle seule sait que bientôt repousseront les roses, repousseront. Maya repose sous le mont d'araignée. Oh Maya repose sous le mont d'araignée, sans peur repose. Une tache au cœur comme une tache au cœur comme un bouton de rose, un bouton de rose.
Bréham, état d'esprit sur France Inter.
C'était Babix et Archichep Omaya. Nous parlons des arbres avec vous, Ernst Zürcher. Vous avez écrit Les arbres entre visibles et invisibles et c'est édité chez Actes Sud. La semaine dernière, il y a 15 jours exactement, puisqu'il y a eu les élections, nous recevions Laurent Gounel, le romancier Laurent Gounel, et qui était fasciné, il s'émerveillait des prouesses chimiques des acacias. Écoutons-le.
En Afrique du Sud, les antilopes mangent couramment les feuilles des acacias. Ce qui est parfaitement normal, elles sont comestibles, elles s'en nourrissent. Sauf qu'une année, il y a eu une sécheresse tellement forte que les antilopes mangeaient le peu de feuilles qu'il y avait sur les arbres et finalement les menaçaient. Et à ce moment-là, l'acacia a cette capacité tout à fait étonnante de transformer sa sève en une sorte de poison toxique, ce qui fait que les antilopes, à ce moment-là, meurent si elles absorbent les feuilles de l'acacia. Et ce qui est encore plus étonnant, ça avait lieu dans une réserve, mais les réserves sont fermées, clôturées en Afrique du Sud, et on s'est rendu compte que des acacias qui n'étaient pas dans la réserve, donc qui n'étaient pas du tout menacés par les antilopes, qui étaient situés à plusieurs centaines de mètres de ceux qui étaient dans la réserve, se sont mis aussi à transformer leur sève en produits toxiques, ce qui tend à démontrer que les acacias peuvent communiquer entre eux.
Alors voilà, Laurent Gounel est romancier, il n'est pas ingénieur forestier comme vous, il n'est pas docteur en sciences naturelles, mais a-t-il raison, Ernst Zürcher ?
Oui, c'est une observation tout à fait juste. Les arbres, en fait, communiquent de différentes manières. Au niveau des racines, par exemple, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on imagine, mais aussi au niveau aérien, ils émettent des substances. On les sent parfois, c'est simplement des parfums de fleurs, etc., qui ont leur raison d'être. C'est des substances qui sont beaucoup plus subtiles et qui semblent faire partie d'un système de communication entre les arbres. Parce qu'un arbre qui se transforme sa propre saveur des feuilles, va obliger les gazelles, les antilopes, à passer chez un autre. Et progressivement, ça répartit en fait le dégât. Et ça oblige les animaux à aller chercher beaucoup plus loin. Et il y a comme une course-poursuite à travers la saveur des feuilles.
On a vu que donc les arbres pouvaient chasser des animaux en devenant toxiques. Et vous écrivez, Herzscher, dans votre livre, qu'ils arrivent aussi à en attirer. Par exemple, ils attirent parfois les prédateurs d'un insecte qui les menace.
Oui, exactement. Prenez par exemple certains saules, les arbres qui font des troncs creux, qui abritent en fait toute une faune. Et ce sera par exemple le cas des chauves-souris, qui sont des animaux très intéressants, qui vont donc habiter à l'intérieur de ce tronc creux de saule, qui consomment énormément d'insectes, des moustiques, des mouches à la périphérie.
Je pensais que vous alliez dire à l'apéritif.
C'est pour eux effectivement, même plus qu'un apéritif. Mais vraiment pour l'arbre, ça sera un apport énorme de substances très précieuses, le phosphore par exemple, parce que ces chauves-souris vont donc nicher à l'intérieur et vont alimenter l'arbre avec des extraits chimiques qui sont récoltés en fait dans une grande périphérie et vont spécialement profiter à l'arbre, le phosphore donc.
Le phosphore, c'est génial. Donc l'arbre s'est débrouillé pour que la chauve-souris vienne chez lui en fait.
On peut se demander qui a fait quoi d'abord, mais c'est un système qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est une raison de souligner qu'il faut vraiment faire jouer ces interactions. Ces saules creux, par exemple, c'est les célèbres trognes qui partout un peu en France, un peu délaissés, mais qu'on est en train de redécouvrir. Et c'est en fait des points d'ancrage de fertilité absolument fabuleux grâce à ces interactions.
Les arbres sont vraiment étonnants donc dans leur performance chimique, dans leur façon de vivre. Au tout début de l'émission, j'ai cité une de vos phrases, Herzscher, qui est au début de votre livre, Les arbres entre visibles et invisibles chez Actes Sud, où vous disiez que donc les arbres étaient les êtres vivants, les plus vieux, les plus grands et les plus gros du monde. Alors je me demande depuis le début de l'émission, comme on a parlé d'autre chose, quels sont les plus grands? Parce qu'en France, ce n'est pas là qu'on a les plus grands.
Les plus grands, c'est des eucalyptus chez les feuillus et des sequoia sempervirens de la côte ouest d'Amérique du Nord. C'est un endroit particulier où ils sont capables de se développer parce que c'est un climat extrêmement humide, extrêmement brumeux. Et ces arbres ne sont pas obligés d'aller chercher toute leur eau pour leur photosynthèse au niveau du sol des racines. Une partie de leur eau est amenée directement par le brouillard, par la brume et... C'est comme un effet de peigne pour cette humidité aérienne. Et l'eau est directement absorbée à ce niveau-là.
Il peut monter jusqu'à combien? On va faire un peu le livre des records.
Il dépasse 112 mètres. Actuellement, l'arbre le plus haut du monde. Mais on a eu un arbre de plus de 130 mètres qui a été abattu il y a peut-être une centaine d'années. Mais absolument mesuré avec toute la fiabilité.
130 mètres, ça fait combien d'étages, ça
130 mètres, si vous prenez 3 mètres pour un étage, ça fait 90 mètres. 33 étages, 100 mètres. 130 mètres, ça fait 40 et plus.
43 étages, vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Vous avez évoqué l'eau, Herzscher, et vous dites que finalement, la vie de l'arbre et de l'eau, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a des arbres qui arrivent presque à faire pleuvoir, et vous évoquez un quatrième état de l'eau. On connaît l'eau haut, on connaît l'eau glace, on connaît l'eau vapeur, et vous parlez encore d'un état, tout ça avec les arbres.
Ça, c'est une question très importante. Tout d'abord, la première, cette faculté de faire pleuvoir. En fait, la pluie a lieu chaque fois que vous avez comme un germe qui permet la formation d'une goutte d'eau. Ça peut être une bulle de gaz, mais aussi une particule extrêmement fine ou une substance chimique. Et les forêts émettent ces substances et provoquent en fait la pluie en dessus d'elles. Et dans ce contexte, on a découvert récemment le rôle des forêts, par exemple la forêt brésilienne du bassin de l'Amazonie, est extrêmement importante. On l'a désignée comme étant le cœur climatique de la Terre parce qu'elle absorbe énormément d'énergie solaire à l'endroit où elle est la plus forte, au niveau de l'équateur, transforme cette énergie solaire en énergie chimique par la photosynthèse, par évaporation aussi, et forme des nuages qui vont redonner des précipitations. Et vous avez un cycle qui se répète plusieurs fois entre la côte est du Brésil jusqu'au contrefort des Andes Et on pense que le Gulf Stream, par exemple, est alimenté par ces masses d'air chaude et humide qui sont mises en route par ces forêts brésiliennes. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment stopper immédiatement la destruction de cette forêt. C'est absolument vital pour la Terre en tant qu'organisme. Ouais.
On reparlera du Brésil tout à l'heure. Puisque vous parlez de la forêt, vous dites également cette chose dans votre livre, c'est que l'arbre et la forêt peuvent procurer plus qu'un bien-être, peuvent être une espèce d'antidépresseur. Que quand l'homme va dans la forêt, qu'il est au contact des arbres, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour qu'il trouve cet apaisement avec les arbres ?
Alors je pense qu'il y a deux ou trois aspects qui jouent dans ce cas-là. Le premier, c'est de se retrouver quelque part dans une enveloppe maternelle, ce qu'on disait pour l'enfant qui aimerait regrimper dans l'arbre. C'est cette ambiance de protection. Pensez à l'été où il fait très chaud, vous entrez en forêt, il fait frais, on se sent bien vraiment. La deuxième, c'est une dimension probablement chimique. Chaque forêt, chaque arbre émet des substances chimiques. Et c'est connu pour les pins, par exemple, que c'est des substances extrêmement favorables. Bactéricides, favorables pour la respiration, des pinènes, des alpha-pinènes, des terpènes. Et la troisième chose qui joue probablement un rôle, c'est l'ionisation de l'air. Dans une forêt, l'air est ionisé, donc chargé électriquement, différemment que l'air des villes, par exemple, qui est ionisé positivement en forêt. Vous avez une ionisation négative, en particulier près des cascades. Ça nous ramène à l'eau, en fait, qui est en fait le vecteur de cette ionisation de l'air. Et vous parliez de ces différentes relations entre les arbres et l'eau et de ces différentes formes de l'eau. Les arbres sont vraiment là comme étant ceux qui mettent en route les cycles de l'eau, que ce soit pour la formation du climat, mais aussi pour la fabrication de cette biomasse par la photosynthèse. On s'est rendu compte que l'eau qui coule dans un arbre a une autre consistance que l'eau d'un robinet, par exemple. Et c'est ce qui a amené des chercheurs américains à un changement de paradigme. On s'est rendu compte que l'eau a en fait une quatrième phase lorsqu'elle est en contact avec des membranes organiques qui sont hydrophiles.
Qui aiment l'eau, qui absorbent l'eau.
Qui absorbent l'eau, ce qui est le cas en fait pour le bois.
Ouais.
Et pour toutes les structures des feuilles, c'est toujours des membranes hydrophiles qui sont là à la base de la physiologie de l'arbre et de son anatomie. Donc vous avez un système qui est là pour fabriquer une eau d'une qualité particulière qui était décrite de manière précise actuellement.
Ça, ce sont des découvertes récentes, Ernst Zürcher, sur l'eau.
Absolument, c'est tout à fait récent. Ce livre, The Fourth Phase of Water, vient de sortir il y a même pas une demi-douzaine d'années. Et ça a initié une série de conférences qui ont lieu chaque année. Cette année encore, en Bulgarie, on aura une conférence sur la physique, chimie et biologie de l'eau. Le troisième terme est important, l'eau en lien avec les organismes.
Alors à propos du bien-être, parce que c'est quand même un petit peu le sujet de cette émission État d'esprit, Ernst Zürcher, vous évoquez donc le bien-être procuré par la forêt dans ce livre, mais vous évoquez également le bien-être procuré par un feu de bois. Alors on trouve tous ça sympa un feu de bois, mais vous allez au-delà du sympa. Vous dites qu'il y a vraiment chimiquement quelque chose qui se passe.
Absolument, ça nous ramène à cette question de la quatrième phase de l'eau. Tout d'abord, qu'est-ce que le feu ? Le feu de bois, c'est en fait cette énergie solaire qui a été transformée en énergie chimique. Donc ces structures du bois à base de cellulose, de lignine, sont capables de redonner l'énergie qui a été incorporée pour leur fabrication. Donc cette énergie solaire se libère de nouveau et ce qui est magnifique dans ce cas-là, c'est que ce feu redonne de la lumière. On ne s'étonne pas assez de ce fait absolument fabuleux, c'est qu'un feu ne donne pas que de la chaleur, mais de la lumière.
Bien sûr.
La lumière solaire, d'une manière beaucoup plus réduite, dans un spectre plus restreint, beaucoup d'infrarouges. Et ces infrarouges pénètrent très profondément dans l'organisme, beaucoup plus que de l'air chaud, par exemple. Et ces infrarouges ont été décrits, justement, dans cette nouvelle approche de l'eau, comme étant favorable à la fabrication de cette eau en quatrième phase qui est capable d'absorber l'énergie. Donc, Être en face d'un feu, c'est vraiment être en situation d'absorber de l'énergie dans notre eau corporelle.
Extraordinaire. Ernst Zürcher, merci. Je dis merci parce que c'est quand même une belle nouvelle. Vous êtes l'auteur des arbres entre visibles et invisibles. Nous évoquerons tout à l'heure à propos des arbres le nombre d'or. Nous évoquerons également le Brésil. Et puis une troisième chose que j'ai oubliée, mais ça me reviendra après les Doors.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
D'esprit sur France Inter.
Nous évoquons les arbres avec vous, Ernst Zürcher. Je prononce bien depuis le début. Vous êtes gentil. Vous êtes aussi ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur et chercheur. Évidemment, les arbres sont votre métier, votre passion, ça se voit tout de suite. Et votre spécialité, c'est la chronobiologie. Je vous ai promis le Brésil. Le voici, le voilà. Le photographe Sebastião Salgado était l'invité de Brigitte Patient dans Regardez voir sur France Inter. Nous étions en 2013. Écoutons-le nous présenter son projet de replantation de la forêt atlantique, dont on parle moins que la forêt amazonienne. Elle fait pourtant 2,5 fois la France.
Aujourd'hui, cette forêt, elle est détruite à 93%. Mes parents nous ont laissé une ferme. Comme ici, comme partout au monde, on a laissé que la destruction écologique derrière nous. Et là, Lélia Vanik Salgado, elle a donné la suggestion de replanter la forêt qui était là avant. Aujourd'hui, on a à peu près 2 millions d'arbres plantés. On a la plus grande pépinière de notre région. On a une capacité de produire 1 million de plantes par année, de plus de 100 espèces différentes, parce qu'on ne plante que des plantes natives. On a eu un plaisir énorme de voir la nature. C'est de là qu'est venue cette envie de faire ce projet, Genesis, une espèce d'hommage à notre planète.
Alors, vous l'évoquez dans votre livre, Ernst Zürcher, ce photographe, et vous parlez d'ailleurs du film de Wim Wenders qui raconte son histoire. Vous pouvez nous dire en quelques mots pourquoi ça vous a touché?
Oui, j'ai placé ça dans le dernier chapitre du livre pour montrer que c'est le temps d'agir maintenant. Le livre ayant un sous-titre avec ces trois mots, s'étonner, comprendre et agir. C'est en fait le but de la science, c'est de faire comprendre les choses et puis aussi avertir quand ça devient urgent de faire des choses nécessaires.
C'est maintenant.
Et Sebastião Salgado a fait une démonstration impressionnante, mais il y en a beaucoup d'autres, dont je cite quelques-unes, à quel point les arbres font rapidement des transformations au niveau du paysage, permettent que les sources recoulent et les fleuves se remettent à irriguer des régions entières. les arbres, la nature est en fait peut-être impatiente qu'on s'y mette enfin. Et lui, il a montré à quel point ça peut aller vite, que les résultats sont tout de suite ici.
Donc c'est une note d'espoir. Vous écrivez également que le nom de Brésil a pour origine un nom d'arbre.
Oui, c'est un arbre, un des premiers qui a été rencontré, un arbre spectaculaire par sa floraison jaune. Et c'était en fait le Pau Brasil, comme il était appelé là-bas. Et le nom a été donné ensuite au pays. Et beaucoup de Brésiliens ignorent ça. C'est la même chose pour nous, on ignore à quel point on est redevable aux arbres de manière multiforme.
Alors les arbres ont des propriétés étonnantes, nous l'avons vu avec vous, Ernst Zürcher. Les dernières découvertes de la science parlent de ces propriétés étonnantes, mais également des notions très anciennes, comme le nombre d'or. Quel est le rapport entre les arbres et le nombre d'or?
Le nombre d'or est une notion très intéressante. Si vous étudiez des tableaux de Léonard de Vinci ou d'autres chefs-d'œuvre artistiques, jusqu'aux pyramides, par exemple, Khéops est construite d'après le nombre d'or et en même temps le nombre pi, deux nombres irrationnels, qui dépasse en fait les autres catégories de nombres. Alors lorsque vous avez un arbre devant vous, si vous prenez un résineux, vous aurez en fait le condensé de l'arbre dans sa structure, dans une pomme de pin par exemple, dans un cône de
vous
pin.
Vous en avez une dans la main.
J'en ai amené un
pomme
ici.
Pomme de pin classique, enfin on dirait.
Une pomme de pin, et si vous l'observez depuis dessous, vous allez voir que ces écailles sont orientées selon des spirales, orientées vers la gauche, mais vous pouvez aussi reconnaître des spirales orientées vers la droite. Et sur cette pomme de pin, vous aurez 13 spirales sur la gauche, mais les mêmes écailles sont aussi orientées selon 8 spirales contre la droite. Et si vous faites ce rapport, 13 sur 8, ça vous donnera 1,61803 pour être précis. De plus en plus précis, plus le nombre de spirales qui s'entrecroisent est élevé. Donc, vous avez dans chaque cône ce nombre d'or. Mais si vous avez une branche avec les aiguilles, vous étudiez l'agencement des aiguilles le long de cette branche, vous allez aussi trouver exactement le même rapport. Et toutes les structures végétales sont en fait toujours dans ce rapport, mais de manière plus ou moins précise, parfois modifiée. Mais à la base, vous avez ce rapport. Le tournesol est un très bel exemple.
La marguerite ?
La marguerite aussi, ouais. Les composés. Alors ça va très loin parce que on a parlé aussi de chronobiologie, de ces rythmes lunaires. Une chose qu'on sait très peu, c'est que non seulement Khéops, la plus grande construction humaine, la structure de l'arbre avec ses cônes contient le nombre d'or, mais même la Terre et la Lune. Si vous posez simplement la Lune sur la Terre, comme une orange sur une tête, et vous allez faire le triangle avec la base ayant le diamètre de la Terre et centrée avec sa pointe au centre de la Lune, vous aurez exactement la forme de la pyramide de Khéops avec le nombre d'or. C'est quelque chose de tellement fabuleux, vous ne le trouvez même pas dans Wikipédia.
C'est incroyable, ça fait quelque chose dans le ventre, tellement c'est impressionnant.
C'est absolument impressionnant et ça va encore beaucoup plus loin. Un système solaire est construit selon le nombre d'or, les périodes des planètes. Un mathématicien français, Jean-Marie Souriot, a découvert que le nombre de jours mis pour la Terre, Vénus, pour Mercure, pour le Soleil, pour tourner sur lui-même, toutes ces périodes sont agencées plus ou moins selon une série régie par le nombre d'or.
Le nombre d'or, on est d'accord, ça correspond à nos tronçons de corps humain.
Exactement. C'est la structure du corps humain structurée et proportionnée d'après le nombre d'or. Le coude, par exemple, qui est exactement au même niveau que le nombril, est dans le rapport du nombre d'or par rapport au sommet de la tête.
C'est pour ça qu'autrefois, on comptait en pieds, en pouces, en...
Exactement.
En parties du corps, en
et
fait.
Et ces parties du corps sont proportionnées dans cette même logique géométrique. Ce qui est intéressant, j'ai parlé du cône avec ses spirales. Dans un sens et dans l'autre, il faut savoir que notre cœur est aussi structuré en spirale. Les os sont aussi structurés en spirale et si vous regardez la tête d'un enfant, par exemple, l'occiput, vous avez les cheveux qui sont aussi orientés selon des jolies spirales. Et en fait, on est complètement incorporé dans cette géométrie du vivant.
On se ressemble beaucoup plus qu'on ne l'imagine.
Exactement. D'ailleurs, entre les arbres et les hommes, on a ce rapport.
D'ailleurs, vous parlez également, à propos de ressemblance entre les arbres et les hommes, Ernst Zürcher, de la circulation du sang dans le corps de l'homme, qui est assez proche de la circulation, je ne sais pas si on dit la sève.
Oui, il y a deux formes de sève. Vous avez une sève ascendante qui est aspirée dans les branches, dans la couronne, et une sève descendante qui descend sous pression. Et ça, ça correspond à nos deux flux sanguins. Vous avez le sang pauvre en oxygène et le sang enrichi d'oxygène qui s'entrecroisent et qui irriguent tout l'organisme. L'arbre fonctionne de manière identique.
En fait, les deux systèmes sont les mêmes, mais inversés. Sauf qu'il y en a un qui se nourrit d'oxygène et l'autre, au contraire, qui rejette l'oxygène.
Voilà, ça c'est très intéressant. C'est la complémentarité. Vous avez l'arbre qui est autonome pour capter cette énergie solaire, transformer en énergie chimique. En faisant ça, il va capter du CO2 et va produire l'oxygène, mais produire en plus de l'eau nouvelle, quelque chose d'absolument intéressant qui est trop peu souligné en biologie végétale, c'est que l'eau est aussi un des trois produits de la photosynthèse. Voilà pour l'arbre. Et chez l'homme, c'est le contraire. L'homme va absorber de l'oxygène, va émettre du dioxyde de carbone, et il fabrique aussi de l'eau nouvelle dans sa physiologie. Donc vous avez cette complémentarité qui fait que l'arbre nourrit l'homme, mais l'homme peut aussi nourrir l'arbre.
Magnifique, les arbres entre visibles et invisibles, c'est édité chez Actes Sud. Nous n'avons pas parlé du Ginkgo biloba qui est aussi un arbre extraordinaire. Nous avons en revanche évoqué l'IF pour l'arbre particulier. Et puis dans ce livre, vous parlez de tous les arbres, vous parlez de la lune, de la terre, de nous. Il y a tellement de choses que nous n'avons pas eu le temps de dire qu'il faut vraiment aller jeter un œil dans ce livre. Merci Ernst Zürcher, restez avec nous puisque nous allons dans quelques instants, après Les Anges de Charles-Élie Couture, parler d'un spectacle avec Patrick Scheider qui se passe justement entre les arbres. Musique.
Un jour, les anges en ont marre qu'on reste sourd à leur mission. Alors avant qu'il soit trop tard, les anges blessés s'envoleront au même signal d'une sentinelle, dans un même battement d'aile. Un jour tous les anges rebelles rejoindront la vie éternelle. Si tu me cherches ce jour-là, vers l'au-delà lève les yeux. Si tu me cherches ce jour-là, regarde là-haut vers les cieux. Je serai peut-être parmi eux. Un jour les anges en ont marre de se faire avoir, perdre leurs plumes, sans crier gare, sans faire de bruit, ils s'éclipseront dans la brume. Mais quand les anges disparaîtront, faudra faire sans leur protection. Qui donc y fera attention, peut comprendre pour un gang de pigeons. Ouais, un gang de pigeons. Cherche ce jour-là, vers l'au-delà lève les yeux. Si tu me cherches ce jour-là, regarde là-haut vers les yeux. Je serai peut-être parmi eux. Quand on reste trop silencieux, on ne sait même plus dire adieu.
Un jour, les anges, c'était Charlélie Couture. Charlélie Couture, tête d'affiche du festival des traversées Tatiou. Tatiou n'est pas en Polynésie, mais dans le département de la Manche. Le festival aura lieu du 14 au 26 août et Charlélie, lui, passera le 24 août prochain.
Noël Bréham, État d'esprit sur France Inter.
Patrick Scheider, bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonsoir Noël.
Vous êtes pianiste et instigateur d'un spectacle qui fait parler les arbres, ai-je lu, qui s'appelle « Des jardins et des hommes ». Alors, qu'est-ce que vous faites ?
En fait, l'idée, c'est de se mettre dans un parc, un jardin ou un espace naturel, de mettre un piano à même l'herbe, et puis d'inviter des comédiens comme Michael Onsdan, Marie-Christine Barrault, Cassie Motteclin, à partager des textes, mais des textes sur la biodiversité.
Ouais.
En fait. Et donc de rapprocher des textes récents qui peuvent être, par exemple, de Hubert Reeve ou de, je sais pas, Nicolas Hulot, avec des textes plus anciens, puisque je suis à côté d'un passionné d'arbres, il y a George Sand qui a écrit des textes très très intéressants sur l'arbre et qui a sauvé la forêt de Fontainebleau à deux reprises d'un abattage massif.
Première militante écologique.
Oui, grâce à elle, on a ensuite, en s'inspirant d'une pétition qui a été faite en 1872, créé les premiers parcs régionaux aux États-Unis, celui de Yellowstone. Voilà, c'est sous son inspiration. Voilà. Mais aussi Léonard de Vinci, dont on parlait en off, mais il y a aussi Montaigne, il y a Épicure aussi, qu'on réduit trop souvent à un gars qui aimait bien manger et se laisser vivre. Non, c'est pas du tout ça. Cet homme, par exemple, on peut commencer par là, qui était philosophe, qui a acheté un jardin à Athènes et qui enseignait dans un jardin. Je crois qu'il émane de la nature, une sorte de philosophie. Voilà.
D'accord. Et vous, vous jouez du piano quand même?
Ah oui, moi je joue du piano. Alors il y a aussi bien de la musique classique, aussi des improvisations. Parce qu'en fait, je pars du principe que les jardiniers qui entretiennent le terrain au jour le jour sont les mieux à même de parler et d'un métier et de la biodiversité.
Voilà.
Et donc, on intègre les jardiniers au spectacle.
Alors, ça se passe comment? Les spectateurs sont assis debout, assis par terre, assis sur des fauteuils?
Je vais le dire. Ils sont assis sur des bottes de paille, en fait. On a travaillé avec Gilles Clément sur une petite...
Elle est dans le coup, Gilles Clément aussi.
Ouais. On laisse pousser l'herbe, et puis à 80 cm de haut. Et une semaine avant le spectacle, on tond 5 lignes dans l'herbe, et dans ces 5 lignes, on dispose des bottes de paille. Les gens s'assiedent dessus. Voilà. Et c'est parti.
Alors, une question que je vais vous poser à tous les deux, Patrick Scheider et Ernst Zürcher, les arbres sont-ils sensibles à la musique, Ernst Zürcher?
Je pense de manière évidente, tout d'abord, lorsque le vent souffle dans un arbre, chaque arbre a sa manière de réagir, de donner du son, de faire vibrer ce vent. Un peuplier donnera un autre son qu'un pin sylvestre ou qu'un hêtre. Ça, c'est une première réponse. Mais la deuxième, il faut penser les choses autrement. Lorsqu'on entend un son dans une forêt, on dit « c'est un oiseau, c'est un merle, un pinson, etc. » Mais en fait, il faudrait faire abstraction de ce qu'on sait déjà et de se dire « c'est un arbre qui chante, une forêt qui chante. » Au printemps, c'est la forêt qui chante, c'est pas les oiseaux qui chantent dans la forêt. Et pour moi, c'est de la musique.
Patrick ?
Oui, je crois que d'une façon très pragmatique, les touches de piano, je repense à ça, sont faites en peuplier. Le piano est tout entier, et les instruments de musique, pour une grande part, constitués d'éléments les plus naturels possibles, et l'arbre et le violon, par exemple. Voilà.
D'ailleurs, Ernst en parle dans son livre, Le bois de résonance.
Le bois de résonance, et le violon qui est aussi construit selon le nombre d'or.
Ah oui ?
Exactement.
Alors, ces spectacles donc, qui s'appellent « Des jardins et des hommes », Patrick Scheider, ça commence quand et ce sera où?
Je l'avoue, ça a déjà un peu commencé le mois dernier, mais bon, le plus gros reste à venir. Voilà, c'est à partir de mai, il y a des spectacles le 2 mai à Quimper, le 3 à Rennes, le 11 mai à Montsartou. Le 16 juin, Valenciennes, voilà, ça continue.
Vous bougez. Alors, vous trouverez bien entendu ces dates sur le site d'État d'Esprit.
On fait le tour de France, voilà, des parcs et jardins, avec une incursion cette année dans le Maghreb, puisqu'on va jouer aussi à Fès, dans un jardin royal. Oh. Parce que j'ai créé un nouveau spectacle sur les jardins d'Orient et d'Occident, dans lequel on marie les contes 10 000 et une nuits avec les fables de La Fontaine. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'aussi bien la fontaine que les mille et une nuits font parler les animaux, les végétaux, etc. Il y a plein de points d'accroche, en fait.
Eh bien, écoutez, merci. Nous merci irons à un de ces spectacles. Je signale également votre livre, Patrick Scheider, « Écoutons la nature » de Lucrèce à Hubert Reeves. Et c'est édité chez Bayard. Un beau, grand et gros livre sur les arbres de Bruno Sirven, « Le génie de l'arbre » qui est édité chez Actes Sud. Comme vous, Ernst Zürcher, les arbres entre visibles et invisibles. Et puis cette jolie histoire du Ginkgo biloba qui est édité chez Rue du Monde, qui est un livre pour enfants qui intéresse également les grands. Merci à vous deux. Il n'y aura pas d'état d'esprit la semaine prochaine, puisque ce sera un soir d'élection. Nous nous retrouverons donc la semaine suivante avec Sabine Melchior-Bonnet, qui nous parlera des mères des grands hommes. Cette émission a été préparée par Emmanuel Fournier, réalisée par Simone de Poux. La programmation musicale était de Muriel Pérez, la prise de son de Pierre-Yves de Rollin. Après les informations, vous retrouverez Brigitte Patient. Elle évoquera l'exposition Walker Evans, qui sera au Centre Georges Pompidou. N'oubliez pas de venir sur notre site et de charger cette émission pour l'écouter quand bon vous semble.